Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 24. La seconde génération entre en politique.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans l'épisode 23, et si vous vous souvenez, on était dans un train entre Naples et Bologne, et ça faisait à peu près ce bruit-là.
Per l'attesa del transito di un altro treno, prevediamo di ripartire tra circa 5 minuti.
Et bien ce train génial dans lequel on monte au sud et qui arrive au nord du pays, et ce train dont on dit d'ailleurs qu'on peut aussi le prendre dans l'autre sens, du nord au sud, mais ça je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas fait, et bien ce train fou, il passe par Rome Termini, par Florence, par les villes et les campagnes, il traverse toutes ces Italies multiples, vieilles villes, villes nouvelles, en crise, en essor, ces Italies dont on dit qu'elles sont divisées. Ce train les traverse dans le calme et l'air conditionné jusqu'à la ville universitaire de Bologne. Dans le dernier épisode de cette émission sur la jeunesse européenne, j'avais rencontré des jeunes élus italiens qui militent pour des partis dits anti-système dans le sud du pays. Dans cet épisode, arrivé à Bologne, j'ai mangé des pâtes bolognaises et j'ai retrouvé Insaf chez elle. Il est tard, elle révise pour les examens dans sa résidence universitaire. Elle me dit de passer, elle aussi fait de la politique, elle aussi voudrait être élue, mais pour elle, à cause d'histoires de papier, les choses se sont avérées plus compliquées que prévu. Un peu comme pour Leila Ali Elmi. Elle est en Suède, on l'entendra tout à l'heure. Elle est également jeune politicienne et longtemps, elle n'a pas été jugée sur ses idées politiques, mais sur les origines de sa famille.
Bon, l'essentiel, c'est de regarder qui émet ces critiques. Ça vient souvent de l'extrême droite. Ils ne me voient pas vraiment comme une personne à part entière. Ils basent leur hypothèse sur ma couleur de peau et sur ma religion. Et c'est une façon de voir très raciste.
Mais d'abord, je traverse donc les rails, les terrains de sport, les rues désertes de ce dimanche soir pour arriver à la résidence universitaire d'Insaf. Et là, je crois que dès l'arrivée devant son interphone, je suis contente d'être là. Insaf a 21 ans, elle est à Bologne pour les études de sciences politiques et sociales depuis 3 ans. Elle vient de Pavullo, près de Modène, et elle habite dans une coloc avec deux copines. Son interphone ne marche pas, et dans la rue déserte, avant même de sonner, on les entend déjà. C'est un appart de coloc visiblement construit pour résister aux erreurs de cuisson, aux fêtes et aux cuites des années étudiantes. Mais dans celui-ci, c'est plutôt rangé. Sur une étagère, il y a des cours, des aspirines, un Mikado, du vernis à ongles. Le sapin semble anachronique, mais elles disent que ça leur remonte le moral en cette période d'examen. Puis comme il est en plastique, il vieillit bien. Sur le tableau de la cuisine, il y a des passages de cours écrits en fluo. Je faisais pareil, ça me semble loin, je compatis. Dans cette coloc, il y a donc Insaf, Miriana et Martina. Miriana et Martina s'éclipsent dans leur chambre pour nous laisser la cuisine. Insaf s'installe en face de moi. Elle a les cheveux bouclés, teint en blond platine, un bandana coloré, un sourire doux et elle parle beaucoup. Ce soir-là, elle révise Histoire internationale, Bismarck, Atatürk, Metternich. Le premier examen, c'est droit romain.
Ma plus grande passion, c'est la politique. Je suis une activiste pour les droits humains, ici en Italie.
Insaf est arrivée en Italie depuis la Tunisie quand elle avait 9 mois.
Ça, c'est mon portrait.
Et avant cette période-là, ce qu'elle sait de ses parents, le voilà.
Quand ils se sont mariés, ma mère, elle était 17 ans. Alors, elle est arrivée ici quand elle était une jeune fille. Mon père, il était maçon.
Comment ils s'étaient rencontrés, tes parents, tu sais ou pas?
Mon grand-parent, il se connaître. Alors, il a décidé de faire un mariage, traditionnel mariage. Alors,
arrangé,
ouais.
Et parfois, tes parents te disent, on est mieux ici qu'en Tunisie, ou c'était mieux la Tunisie qu'ici. T'as l'impression qu'ils sont nostalgiques ou pas du tout?
Ouais, ils sont très nostalgiques. Il y a parole, tunisienne parole, that is Rorba.
Son père avait trouvé du travail en Italie, sa mère l'avait rejoint.
Rorba. Un sentiment
de manque.
Ouais, de manque. Quand j'étais plus jeune, tout le fois, ma mère, elle s'est je sens le Rorba. Mais je crois que mes parents, ils aiment l'Italie parce que ici, il y a plus d'opportunités en avant une école meilleure que la Tunisie. Alors, ils se sentent seuls, mais ils pensent que c'est la chose meilleure pour nous. Quand tu es petite, tu sais pas quelle est la différence.
Petite, Insaf dit qu'elle a mis du temps à se rendre compte qu'elle n'était pas comme les autres. Après tout, elle parlait un italien parfait. La seule différence, peut-être, c'était son prénom.
Je m'appelle Insaf, il s'appelle Francesca, Martina.
Mais c'était finalement assez marginal. Et elle se souvient de s'être dit que ces différences n'avaient vraiment aucun sens le jour où elle a été élue déléguée du lycée.
Je suis née parlant deux langues, comprenant deux différentes cultures. J'ai compris que la différence, c'est pas une chose qui est mal pour moi. Mais je me rappelle un jour, quand il était les élections pour le délégué, ce jour-là, je me sentais pas bien, alors je suis restée à la maison. Et mes amis dans la classe m'ont dit qu'il était un garçon, qu'il a dit « Ma, vous voulez un Marocain de merde comme le délégué de le lycée ?» Alors j'ai compris, mais j'ai trouvé aussi des personnes très adorables qui m'ont dit « Tu es la représentant meilleure des Italiens ici en Italie, tu es plus italien que les Italiens. » Quand j'étais plus petite, ma mère, tous les fois, me dit « tu dois étudier parce que quand tu deviendras grande, les personnes diront de toi que tu es juste un Tunisien ici et tu peux faire rien. » Tu dois étudier, et de cette manière, les personnes vont parler de toi pour ta intelligence, pas pour ta provenance, ou pour ta origine, ou parce que tu es une femme, not un homme. Alors, je suis grandie avec cette idée-là. Ma mère, elle a compris que c'est la clé, c'est l'étude. Quand je décidais de devenir déléguée de le lycée...
C'était quoi tes propositions?
Alors, la première chose que j'ai dit était, je veux que l'école... Et l'école de l'étudiant par le professeur. Parce que oui, on va à l'école pour étudier, mais aussi l'espace social où les jeunes se rencontrent peut connaître les différentes stratifications sociales.
Selon INSAF, le gros problème au lycée, c'est que les élèves étaient trop cloisonnés. Cloisonnés entre bac général, bac pro, bac technique ou autre, ils étaient assignés à des sections qui correspondaient souvent déjà aux conditions économiques de leurs parents. Et ces cloisons, ces frontières qui n'étaient pas anodines, elles ne se traversaient pas, ou difficilement. INSAF dit qu'elle s'est rendue compte que ces divisions, ce manque de dialogue, ça commençait dès l'école.
Alors je dis, on doit se parler, on doit se connaître, parce que ça, c'est la clé pour créer un monde meilleur.
Alors INSAF a proposé que pendant trois jours, les cours et les professeurs seraient abolis. Et ce serait aux élèves de tout organiser, des laboratoires de littérature animés par des anciens de l'école, ou des cours de danse organisés par des élèves breakdancers, ou un cours de philo par un élève passionné. Et il y aurait aussi dans les cours de récréation des concerts de ceux qui appartenaient à des groupes, sans doute si je peux me permettre, les plus populaires. Mais à tous ces ateliers, les élèves seraient mélangés et encouragés à discuter.
C'est dingue, c'est arrivé une fois ça?
Maintenant, il y a ma sœur comme déléguée d'institut, alors elle doit faire la même chose.
Ce projet existe depuis maintenant 4 ans.
Le secrétaire général du Parti démocratique à Pavoulo, il a écouté de moi, alors il a dit ok, on veut que tu représentes les idées de le jeune ici à Pavoulo, aussi dans les conseils communaux à Pavoulo. J'ai dit waouh, super, j'adore la politique parce que j'ai commencé ma passion pour le droit, parce que j'avais une super professeure de philosophie qui m'a ouvert ma mentalité et il a commencé mon amour pour la philosophie, le droit, la politique. Alors j'ai dit waouh, c'est super, je veux faire ça dans ma vie. Au moment que j'ai décidé de me présenter à les élections communales, j'ai réalisé que je ne pouvais pas parce que je n'ai pas la citoyenneté.
À 18 ans, du coup, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas italienne en fait.
Ouais.
Tu n'avais eu aucune occasion jusque-là de t'en rendre compte.
Pour prendre la nationalité ici en Italie, tu dois avoir le sang italien, alors tu peux être italien, ou tu peux devenir italien avec la naturalisation. 10 ans de résidence, un bon travail avec beaucoup d'argent, et tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Ça, ce sont les règles pour avoir la nationalité.
Quand on n'a pas de parents italiens.
Ouais, quand on n'a pas, pour naturalisation. Le problème, c'est que quand un parent devient citoyen, il peut passer la nationalité pour ses enfants, à condition que les enfants aient moins de 18 ans. C'est la raison parce que mon père, maintenant, il est citoyen italien, il a la nationalité, mes sœurs aussi. Moi non, parce que quand mon père il est devenu citoyen italien, j'étais 18 ans. Maintenant, ma famille n'a pas les revenus nécessaires parce que mes parents se séparaient maintenant, alors les revenus
est baissé.
Et alors, je n'ai pas la possibilité de devenir citoyenne italienne. Quand j'ai réalisé à 18 ans que je ne peux pas participer à l'élection politique parce que je n'ai pas la nationalité, quand je suis arrivée ici en Bologne, j'ai connu le mouvement italien Italiani senza cittadinanza. Et en ce moment, j'ai compris que je ne suis pas seule. Oui. Ah, ce combat, ce n'est pas juste le mien combat, mais c'est le combat d'un million de jeunes qui sont nés ou qui sont grandis ici en Italie, qui sont italiens à tous les effets, mais ils ne sont pas considérés italiens par la loi et par leur pays, que c'est l'Italie.
INSAF s'engage donc auprès de ce mouvement qui lutte pour une nouvelle loi sur la citoyenneté. Elle m'a envoyé le lien de sa toute première apparition à la télévision dans une émission politique apparemment très connue, Carta Bianca, sur Rai 3. Elle y raconte le paradoxe de sa situation. Elle dit « Je me sens italienne, mes valeurs sont occidentales, c'est ici que j'ai grandi, que j'ai été formée, c'est ma maison. Or, je ne suis pas reconnue comme une fille de ma patrie. »
La culture est quelle italienne. Mi riconosco nei valori occidentali, democratici della Repubblica Italiana.
Dans un autre discours, lors d'une autre intervention, elle parle de ses départs en Tunisie pour des vacances de temps en temps l'été et de sa grand-mère qui régulièrement lui rappelle qu'elle parle décidément un très mauvais tunisien.
Con tanto di mia nonna che mi prendeva in giro perché non so parlare bene il tunisino e andando in Tunisia mi diceva guarda tu sei un immigrato.
Dans Le Figaro, je lis que cette réforme du code de la nationalité est débattue en Italie depuis une quinzaine d'années. Elle vise à modifier la législation en vigueur qui jusqu'ici est fondée sur le droit du sang. Ce projet de loi que soutient INSAF, qui consacrerait le droit du sol, est dit tempéré puisqu'il pose des conditions. L'un des parents doit avoir été présent sur le territoire italien depuis au moins 5 ans, ou l'enfant doit effectuer un cycle scolaire complet en Italie. En adoptant le droit du sol, l'Italie se rapprocherait de la majorité de ses voisins européens, comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne ou le Portugal, où cette règle s'applique sous des formes variées.
L'autre possibilité, que c'est le jus culture, que c'est la part plus belle de la nouvelle loi, parce qu'il a dit que le paramètre pour dire si tu es citoyen ou non d'un pays, ce n'est pas le sang que tu as dans ton corps, mais c'est la culture que tu as. Alors, si tu viens en Italie avant 12 ans et tu études dans l'école pour 5 ans, tu peux devenir citoyen italien par culture.
Selon l'Institut italien de la statistique, l'adoption du droit du sol donnerait aujourd'hui la nationalité italienne à quelque 800 000 enfants nés dans la péninsule et à 60 000 jeunes immigrés chaque année. Mais depuis l'afflux migratoire de 2015, le soutien au texte a chuté dans l'opinion publique, passant selon les sondages de 80% en 2014, puis 70% en février, à 52% en septembre dernier. Or, c'est ce mois-là, en septembre 2018, que ce projet de loi instaurant donc le droit du sol avait été repoussé au Sénat, après le dépôt de plus de 40 000 amendements de l'opposition. Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, parti anti-euro et anti-migration, a alors salué une victoire du bon sens, en répétant ses slogans sur les réseaux sociaux « On ne fait pas de cadeau de la citoyenneté, stop à l'invasion ». Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles, a quant à lui exprimé son refus du droit du sol à plusieurs reprises depuis plus de 10 ans, avant même la création de son mouvement.
La chose plus belle, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de personnes et j'ai connu des personnes qui m'ont dit j'étais totalement contraire à la loi, mais en t'entendant, j'ai changé ma perception. Parce que le problème plus grand, c'est que quand tu parles avec le jeune, la majorité sont en faveur parce que on a grandi ensemble. Alors nous, les gens de ma génération, on sait quelle est la vraie condition culturelle. Mais les plus âgés, les générations avant de la mienne, ils connaissent pas parce que ils sont grandis dans une condition culturelle différente de la mienne. Alors, c'est ça le problème. Et le problème plus grand dans la campagne électorale pour faire passer sa loi était qu'on n'avait pas la possibilité de faire parler le jeune.
Toi, tu ne peux pas voter alors aujourd'hui. Tu n'as pas voté aux dernières élections et...
J'ai voté pour l'élection dans le Parti démocratique. Juste ça.
À l'intérieur du parti.
Ouais.
Et ça va, c'est pas trop frustrant? Ça doit être frustrant pour toi?
Très frustrant, parce que l'article 48 de la Constitution italienne dit que le droit à voter, c'est pas juste un droit, mais c'est
un devoir.
Mais je peux pas faire mon devoir comme citoyen et je me sens totalement un citoyen italien. C'est un grand problème, aussi parce que la politique, c'est ma plus grande passion, aussi parce que j'étudie sciences politiques et je veux pas voter. C'est frustrant.
Et tu peux voter en Tunisie ?
Ouais, je peux voter. Moi, je connais rien de la politique tunisienne. Alors, c'est une impasse.
On retrouvera Insaf et juste après le disque, je voudrais mettre près du sien le témoignage d'une autre jeune fille de seconde génération qui est arrivée en Suède depuis l'Éthiopie quand elle avait 2 ans et qui a été élue récemment au Parlement. C'est rarissime alors qu'elle était seulement 21e sur la liste du Parti Vert. Elle est remontée sur cette liste et elle a été élue grâce au vote personnel des électeurs. On vous racontera ce que c'est. Mais d'abord, avant de les retrouver toutes les deux, voilà un disque choisi par Jules. Chewbacca, dans Burn, Loudoyon dit « Je suis trop près de la lumière pour faire marche arrière. »
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going inside. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Full Continental sur France Inter et la RTBF la première. Dans cet épisode, on est avec les enfants de la seconde génération qui font leur place en politique sur le continent européen. Et parmi eux, il y a Leila Ali Elmi qui, en septembre 2018, alors qu'elle avait 30 ans, est devenue la première Somalienne élue au Parlement suédois. Ce qui a marqué au moment de son élection, c'est d'abord qu'elle n'était pas très connue. Elle n'avait jamais occupé d'autre fonction que celle de suppléante au conseil d'arrondissement de son quartier d'Angered, une des banlieues défavorisées de Göteborg. Mais ce qui a aussi marqué, c'est que lors de ces mêmes élections, le Parlement est passé côté conservateur avec le soutien du parti d'extrême droite, les démocrates de Suède. Leila est aujourd'hui la seule jeune femme voilée à siéger dans ce Parlement. On avait très envie de comprendre ce que raconte son histoire sur la place de cette seconde génération en Suède aujourd'hui, ainsi que la place de l'extrême droite. On a contacté le bureau de Leila Ali Elmi et son assistante nous a organisé une interview sur Skype. Avec elle, on a commencé par le commencement.
Hi Leila, how are you?
Leïla avait donc 2 ans quand sa famille est arrivée en Suède depuis l'Éthiopie. Comme elle ne se souvient pas de ces années-là, je lui ai demandé ce qu'on lui a transmis de cette histoire qui est la sienne. Les parents de Leïla appartenaient à la minorité somalienne en Éthiopie.
La seule chose que je sais, c'est qu'elle est venue en 89 comme réfugiée en Suède. Et nous sommes arrivés l'année d'après. J'ai vécu à travers elle ce que c'est que de s'adapter à une nouvelle société, d'apprendre une nouvelle langue. Tout cela, elle n'a pas eu besoin de me le raconter. Ça faisait partie de ma vie. Et je pense qu'être élevée par une mère seule peut être difficile. Mais dans l'ensemble, j'ai une enfance plutôt ordinaire.
Leïla a 8 frères et sœurs. Je lui demande comment est né son intérêt à elle pour la politique.
Ça a commencé parce que j'étais noire et qu'on avait accès en Suède à des émissions de télévision américaines. Et c'est là que j'ai appris des choses sur le mouvement civique là-bas. Moi aussi, j'étais noire dans un pays de blancs. Et la corrélation entre ce qui s'était passé là-bas et ma vie à moi d'enfant de réfugié, ça m'a marquée. Et une de ses figures, c'était Shirley Chisholm. J'ai lu des choses sur elle, elle était très active dans le mouvement civique aux États-Unis. Je dirais qu'elle m'a beaucoup inspirée.
Alors pour ma part, je ne connaissais pas cette dame. Figurez-vous qu'elle est la première femme afro-américaine qui a été élue au Congrès en tant que représentante de Brooklyn. Elle a été élue pendant 3 mandats, de 69 à 83. Et voilà... pour le plaisir, le son de sa voix.
First of all, I'm very glad to have been able to make history in this country by being the first black woman. And boys and girls, as far as I'm concerned, actually, it's overdue.
Shirley Chisholm est surnommée aujourd'hui Fighting Shirley, Shirley la battante. Et quand un jour un journaliste lui a demandé comment elle voulait qu'on se souvienne d'elle, elle a répondu pas comme la première femme noire au Congrès, mais comme une femme qui avait du cran, qui avait des tripes, someone who had guts. Par ailleurs, son nom est beaucoup revenu dans les médias en novembre dernier. C'était alors les midterms aux États-Unis. Et sur les 964 candidats au Congrès et au poste de gouverneur, 272 étaient des femmes, 216 des candidats noirs, hispaniques, asiatiques et natifs américains ou métissés, et 26 étaient membres de la communauté LGBT. C'est un record, comment dire ça? Un record pour des candidats autres que homme blanc.
I see myself as a potential reconciler on the American scene. Time will tell whether or not this will be so.
Je demande à Leïla si elle, en grandissant, elle voyait beaucoup de jeunes parler et s'intéresser à la politique.
Mes frères et sœurs ne s'intéressent pas à la politique. Mais je ne dirais pas que j'étais isolée. Beaucoup de gens autour de moi sont très informés et intéressés par le débat d'idées.
Dans un article du Monde, je lis que Leïla, à 12 ans, avait été placée en foyer. Elle n'allait plus à l'école, elle était en révolte contre sa famille. 2 ans plus tard, elle est revenue vivre avec sa mère, est devenue une élève studieuse et a terminé le lycée. Elle a ensuite fait des ménages, distribué le journal et commencé à travailler comme interprète auprès de la communauté somalienne de Göteborg. Cette communauté représente 8500 personnes sur les 560 000 habitants de la ville. Leïla s'occupe alors d'aider les immigrés dans leur démarche auprès de l'administration suédoise. Et puis en 2014, elle s'encarte chez les Verts. Je lui demande pourquoi elle a finalement opté pour ce parti-là.
Je lisais beaucoup de livres de politique, de différentes idéologies. Et j'ai finalement choisi les Verts parce que c'est plus large. Leur programme est basé sur le système dans son intégralité. L'humanité, l'environnement, c'est très inclusif. Ça ne s'intéresse pas seulement aux humains. J'ai pris ma carte et peu après, c'était la campagne de 2014. J'ai travaillé sur cette campagne des Verts en tant que simple adhérente. Je pensais qu'il fallait que la prise de conscience politique soit plus élevée dans le quartier où je vis, où beaucoup de gens et surtout beaucoup de jeunes ne votent pas et ne s'intéressent pas à la politique.
Et effectivement, Leïla vient du quartier de Angered, connu comme étant particulièrement défavorisé. Un quartier marqué aussi par l'abstention et où les logements sont étroits et les résultats scolaires médiocres. Leïla a fait campagne dans ces quartiers-là, en suédois, mais aussi en langue somalienne.
Parfois, ce désintérêt s'explique juste par le fait que ces jeunes sont très occupés par ailleurs. mais parfois c'est un parti pris de ne pas s'y intéresser, parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Ils pensent que ce n'est pas pour eux, que ça ne les affecte pas. Donc j'avais envie de les impliquer, de leur dire que chaque vote compte.
Je lui demande, et alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
On m'a proposé de devenir membre du conseil dans mon arrondissement. J'ai siégé là pendant 4 ans et ensuite, je me suis retrouvée sur les listes pour le Parlement. Pendant cette campagne, j'étais très occupée à aller frapper aux portes et faire du travail de terrain, pour lequel j'avais le sentiment que le dialogue avec les citoyens était ce qui comptait le plus, donc je m'en suis beaucoup occupée. Donc j'avoue que j'ai eu très peu de temps pour me demander ce qui pouvait se passer si j'étais vraiment élue.
Certains disent qu'elle doit sa victoire, notamment au club de foot de son quartier, qui, convaincu après l'avoir entendu discuter de son programme, a en son nom démarché les habitants en faisant du porte-à-porte. Je vous propose une petite balade sur le mur Facebook de Leïla. Voilà son clip de campagne.
It is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength.
On y voit des images filmées par des drones, des jeunes de quartier et des images d'archives de néo-fascistes. On voit aussi Leïla qui parle en regardant la caméra avec son voile et ses lunettes. Voilà ici une vidéo de meeting de campagne. Elle est sûre d'elle, elle parle sur une petite estrade posée en bas de tours d'immeubles devant des jeunes. Cette fois, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, une grande majorité, et elles sont voilées de toutes les couleurs. Il y a aussi sur sa page Facebook des dizaines de photos de meetings, beaucoup dans des petites salles des fêtes, avec des sols carrelés devant 20 ou 30 personnes, essentiellement des hommes. On la voit aussi dans un studio de radio locale somalienne en Suède, et enfin en tournée en Somalie même. Alors quand elle raconte que c'était une longue campagne, je vois bien ce qu'elle veut dire.
J'ai obtenu ce poste de députée de façon très inhabituelle. J'étais 21e sur les listes et je suis remontée à la première place, ce qui est très rare.
Voilà comme on la croit, explique tout ça. Placée 21e sur la liste de son parti, Leïla Ali Elmi n'était pas en position d'être élue, mais c'était sans compter sur une subtilité du vote suédois. Les électeurs dans l'isoloir ont en effet la possibilité de cocher le nom d'une personne pour la faire remonter dans la hiérarchie des candidats. Avec 1467 voix personnelles, la novice en politique a rassemblé plus de 6% des voix des Verts au niveau national.
J'étais stupéfaite, très surprise et très émue. Ça n'arrive pas tous les jours. Et tout à coup, j'étais dans les médias. Et après, je devais répondre à des interviews. C'est arrivé si vite. C'était dingue quand j'y repense. C'était une sensation géniale. On ne peut pas oublier ça.
What do you remember in particular?
The first day the parliament opened, I think.
Je me souviendrai toujours du discours du roi. C'était la première fois que j'étais en présence du monarque de Suède. C'est surtout ça que je retiendrai.
Le parti d'extrême droite, le SD, les démocrates de Suède, a fait son entrée au Parlement pour la première fois en 2010. C'est plus tard que dans les autres pays d'Europe. Dans un de leurs clips, tourné pour les dernières élections en septembre, ils ont filmé dans une pièce noire, sur de la musique anxiogène, une course symbolique pour les aides d'État. Il y a d'un côté une dame suédoise d'un certain âge qui marche difficilement, et en concurrence avec elle, des dizaines de femmes en voile intégrale noire qui poussent des landaus avec frénésie.
All politik handlar om prioriteringar.
Lors des dernières élections législatives de septembre 2018 donc, on annonçait ce parti d'extrême droite à 20 ou 30%. Finalement, ils ont obtenu seulement 17,8% des voix. Ça reste la troisième force du pays. Et selon les sondeurs, ce qui est intéressant, c'est que le SD a fait un moins bon score que prévu du fait du climat. Cet été, il y a eu en effet des incendies dramatiques en Suède et le débat de l'élection s'est déplacé. Alors que l'enjeu principal devait être celui de la migration, finalement, ça a été l'enjeu climatique. Face à 25 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée, le parti d'extrême droite SD est visiblement considéré comme moins compétent.
Oui, j'ai une religion, mais je ne suis pas très religieuse. Et je pense qu'il y a une différence entre avoir une religion et être une personne religieuse. Et ces gens ne savent rien de mon parcours, de mes objectifs politiques, de mes convictions politiques et ce pourquoi je me bats. Leur critique était de dire que j'étais impliquée dans des groupes tribaux somaliens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le système tribal en Somalie exclut complètement les femmes du pouvoir, de l'exercice de la démocratie. Donc une société tribale n'aurait jamais élu une femme comme moi. S'ils s'étaient renseignés même très rapidement sur le système tribal, ils ne m'auraient pas attaqué comme ça. Donc ces critiques sont fondées sur des préjugés contre les Noirs et les musulmans. Et c'est très triste parce qu'on se concentre beaucoup sur les critiques négatives alors qu'il y a eu aussi beaucoup de choses très positives. Nous avons eu beaucoup d'attention des médias nationaux et internationaux qui ont présenté ma candidature comme quelque chose qui apporte beaucoup d'espoir.
L'élection de Leila a causé de grandes polémiques en Suède. Des polémiques du côté de l'extrême droite, bien sûr, mais également de la part de journalistes conservateurs qui se demandent si, en votant personnellement pour des candidats en fonction de leur appartenance, certains groupes ne risquent pas de déformer la démocratie. D'autres observateurs estiment qu'elle n'est pas faite pour être élue, mais pour décorer de diversité la liste électorale. La correspondante de La Croix rappelle tout de même que seuls 1% des candidats élus au Parlement suédois sont issus des 23 quartiers considérés comme particulièrement exposés et précaires.
Les gens sont montés les uns contre les autres par ceux qui soulignent leurs différences, mais moi je crois que ces différences sont infimes quand on regarde la vue d'ensemble. Parce que ce que les gens ont en commun est plus grand et important que leurs différences.
Sur son dernier post Facebook, Leila a pris en photo les documents signés de ces deux motions au Parlement, un au sujet de l'emploi des jeunes et un autre au sujet des discriminations, ces deux grandes batailles.
Dans mon travail d'élu, je dois beaucoup faire face à ces questions. Il faut qu'on parle d'ailleurs plus ouvertement de tous ces mouvements radicaux, car aujourd'hui cette question est très présente. On a eu un gouvernement de transition pendant 4 mois ici en Suède à cause de l'extrême droite. On a exclu l'extrême droite et gauche dans la mise en place du gouvernement. Et je pense que ces choix sont pleins d'espoir pour les autres pays du continent. On peut rester debout pour les droits humains et pour la démocratie. Il y a des alternatives.
On revient dans un de ces autres pays européens où l'extrême droite est entrée au gouvernement, en Italie. On est dans une colloque d'étudiants à Bologne, il y a un sapin de Noël en plastique, il y a Miriana et Martina qui cuisinent du blanc de poulet à la crème. Elles sont toutes les deux colloques de Insaf Dimassi. Insaf, c'est elle qu'on vient voir, elle a la toute petite vingtaine. Elle a commencé la politique avec le parti de centre-gauche, Partido Democratico, qui était au pouvoir jusqu'aux dernières élections, en mars 2018. Insaf est particulièrement engagée pour obtenir un changement de la loi de la citoyenneté en Italie. Elle voudrait qu'au lieu de la loi du sang, ce soit la loi du sol qui soit appliquée. Sur sa page Facebook, elle poste des vidéos en selfie pour commenter l'actualité. L'une de ces vidéos s'appelle « Pourquoi les Italiens ne sont pas racistes ?» Une autre, Salvini, le chef du parti d'extrême droite de la Ligue, est-il bipolaire ?
L'autre jour, notre ministre de l'Interno, Matteo Salvini, a écrit un bel post.
J'ai beaucoup d'amis de la Ligue. Ouais. Et les discussions plus intéressantes, je les fais avec ils parce que une de mes amies plus proches, c'est un garçon de la Ligue. Et quand on parle, on trouve différents points sur lesquels on est d'accord. Et ça, c'est très intéressant parce que le problème, ce n'est pas gauche, droite. Le problème, c'est qu'on doit parler. C'est le problème plus grand. Parce qu'on pense que notre idée, c'est la meilleure. Et on ne veut pas parler, communiquer avec les autres.
Qu'est-ce que tu as en commun avec ton ami de la Ligue ?
Le fédéralisme fiscal. On a trouvé ce point commun très très fort. Je ne sélectionne pas les amis par les idées politiques. L'amitié est quelque chose de plus grand, plus important, plus profonde.
Et par exemple, tes colocs ici qui vivent avec toi, elles sont de quelle partie ?
Elles sont de le Five Star Movement, de mouvement 5 étoiles. Ouais.
Et c'est quoi, toi, ta principale critique du mouvement 5 étoiles ?
La principale critique, c'est que le 4 mars, ils ont pris 33% à les élections politiques et la Ligue le 17%. Maintenant, ils font ce que la Ligue dit de faire, mais ils sont le parti de majorité. Alors, tu ne peux pas permettre que c'est la Ligue qui décide quelle est la ligne politique. Je crois à la Constitution. Je crois que c'est l'instrument meilleur pour faire politique, utiliser la Constitution, que j'ai tout le temps dans ma sac. Parce que, je ne sais pas, il peut être que je vais quelque part. Et...
Tu peux me montrer ? Elle est où ?
dans ma chambre.
Ah oui, là, il y a ton sac à main.
Ouais. Ok.
Et le livre est bien abîmé, donc ça se voit que tu l'as beaucoup utilisé. Oh là là.
Ouais. 5 ans de manifestation de la piazza.
Oui, sur la place publique. Ouais. Waouh. Et donc, c'est quoi ton article préféré?
Mon article préféré, ok. Il y a beaucoup. Il y a l'article 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza. Qui dit que tous les citoyens ont la même dignité sociale, ils sont le même devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion. Aussi, l'article 10 disent que la condition de l'étranger est régulée en conformité de la loi internationale et qu'il y a le droit de, à l'asile politique. Et l'article 11 qui dit que l'Italie refusait la guerre comme instrument offensif à la liberté des autres peuples et comme instrument pour la résolution des problèmes internationaux. C'est...
Et cette constitution, ça, il t'est arrivé dans une manifestation de devoir dire « attention, tu bafoues mes droits ?»
Beaucoup de fois, parce qu'il était une manifestation. J'ai parlé de le droit à la citoyenneté et j'ai parlé de l'article 3 pour valider ma théorie sur l'égalité et l'équité dans la société.
Et est-ce que tu as déjà été dans des manifestations violentes ?
Non. Je suis une femme institutionnelle.
Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour avoir la nationalité maintenant ?
Je dois trouver un travail.
Ou épouser un Italien.
Hein ? Ouais, ouais. I had so many requests to marriage.
Ah oui, j'ai eu beaucoup de demandes en mariage.
Ouais, j'ai eu beaucoup de demandes en mariage quand j'étais en télévision, tu parlais de la citoyenneté, mais j'étais avec mon ex boyfriend, je dis non merci, je veux pas prendre la citoyenneté avec le mariage, je suis très jeune.
Insaf me dit qu'au mariage, elle préfère le travail et avoir un jour assez vite assez de sous pour pouvoir prétendre à cette nationalité. Et puis si elle devient présidente du conseil, elle voudrait, en urgence et avant tout, réformer le système scolaire. Elle dit qu'elle-même a la chance d'avoir une bourse d'études, mais que c'est rare, que les études et la vie des jeunes ici est trop chère.
Je vais créer des instruments pour permettre la participation politique de les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ok, il y a beaucoup de militants, de jeunes dans les partis politiques, mais on n'a pas d'espace pour parler. Et on n'a pas la possibilité d'entrer dans la gestion du pouvoir. Parce que la politique est vue comme une chose pour les adultes, non pour les jeunes. Mais c'est notre pays aussi et c'est notre futur.
Et tes parents, ils disent quoi de ce que tu fais?
La première fois, ma mère m'a dit « c'est un peu dangereux pour toi parce que les politiques sont un peu fous, alors ils peuvent faire quelque chose parce que tu parles trop. » J'ai dit « ok, je sais que je parle trop, mais on a le droit de parler et de penser ici en Italie, alors on doit le faire, on ne doit pas avoir la peur de parler. » Alors maintenant, quand je l'appelle « maman, je dois aller à Rome à parler. » »« Ah ok, quand tu arrives, dis-moi quelque chose, envoyez-moi un message. » Juste ça. C'est ça, c'est tout. Elle est très cool. Il y a des fois qu'elle vient avec moi, elle fait ma groupie.
C'est ma fille.
C'est ma fille.
C'était Full Continental, épisode 24. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier pour le montage, à Lola Costantini pour la traduction. Merci à Anaïs Delmas, à Djoubaka et Romain Couturier pour la musique. Et puis merci à Claire Brault qui illustre chaque épisode avec soin. Ces dessins sont à retrouver sur la page de l'émission, sur franceinter.fr, sur le site de la RTBF La Première, sur notre page Facebook, ainsi que sur Instagram et Twitter. Merci beaucoup et belle fin de journée.